Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
C'est une grande première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Ce lundi à Moscou, le dirigeant russe Vladimir Poutine reçoit pour 3 jours son homologue chinois Xi Jinping, un déplacement qui n'a rien d'une simple visite de courtoisie, puisque des tractations sont aussi au programme.
Un voyage pour la paix et une démonstration d'amitié entre deux nations. La visite du président chinois à son homologue russe est tombée quelques heures à peine après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Un hasard du calendrier pour deux dirigeants habitués à régner en maître sur leur vaste territoire. Deux dirigeants bien décidés à proposer un autre modèle à celui jusqu'ici dominant des pays occidentaux. Deux dirigeants devenus des alliés de circonstance aux intérêts convergents. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Une visite d'amitié, de coopération et de paix, ce sont les mots de Xi Jinping dans un article publié ce matin dans les médias d'État russes et chinois. Le numéro 1 chinois y souhaite ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les deux pays.
Pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président chinois s'est rendu la semaine dernière en visite officielle à Moscou, comme on peut l'entendre ici sur France 24. Une visite de bon voisinage, mais aussi une visite de négociation, la Russie attendant beaucoup de son puissant voisin pour aider son économie atteinte par les effets des sanctions occidentales.
Да, китайский лидер.
Les médias russes ont diffusé largement l'arrivée en grande pompe du président chinois descendant de son avion et accueilli avec les honneurs de la garde pour son premier déplacement à Moscou depuis près de 4 ans. Bonjour Frédéric Schaeffer.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes le correspondant des Échos à Shanghai, Xi Jinping en visite à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est un symbole particulièrement fort. La Chine, géant économique, usine du monde, veut aussi peser diplomatiquement.
Oui Pierrick, la Chine effectivement c'est la deuxième puissance économique mondiale. C'est le pays le plus peuplé au monde, à peu près à jeu égal avec l'Inde. Et on voit clairement que maintenant la Chine veut faire entendre sa voix dans le concert des nations et étendre son influence. Alors la puissance diplomatique de la Chine, elle est restée à la traîne de sa puissance économique pendant de longues années. C'est encore le cas aujourd'hui, mais les choses commencent à changer. En fait, on l'a observé assez nettement depuis une dizaine d'années l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, qui a mis fin à l'idée que la Chine devait adopter un profil bas, comme l'avait recommandé en son temps Deng Xiaoping. On voit très bien que la Chine est de plus en plus présente dans les instances internationales, et on voit aussi qu'elle monte ses propres instances, ses propres organisations pour fédérer autour d'elle des pays amis. Et la Chine, on voit qu'elle là, elle tient à se présenter comme une puissance responsable qui prend des initiatives. Alors, parmi les initiatives importantes, il y a eu l'initiative récente du rapprochement des grands rivaux que sont l'Iran et l'Arabie saoudite et qui constitue une victoire diplomatique importante pour la Chine, puisque ce sont plus finalement les États-Unis, qui sont très présents au Moyen-Orient, qui ont mené à ce rapprochement, mais c'est un rapprochement qui s'est fait sous l'égide de Pékin. Et la visite de Xi Jinping à Moscou, elle s'inscrit dans cette tendance, avec l'affirmation d'une Chine qui est de manière extraordinaire, forte et déterminée.
La Chine qui compte se présenter en médiateur de paix à l'image de son plan pour l'Ukraine, présenté fin février et resté sans suite. La question ukrainienne sera aussi abordée lors du prochain voyage d'Emmanuel Macron en Chine du 5 au 8 avril. Mais Frédéric, la Chine peut-elle être encore perçue comme neutre aujourd'hui sur le dossier ukrainien?
La Chine tient à offrir l'image d'une puissance responsable, on l'a dit, et éviter de tomber sous le coup des sanctions occidentales en franchissant la ligne rouge. Alors, sur le conflit ukrainien à proprement parler, on voit que la Chine se garde bien depuis le début du conflit de soutenir trop ouvertement Moscou, et le président américain Joe Biden a récemment reconnu que la Chine n'avait pas livré à ce stade d'armes à la Russie. Donc en fait, la position officielle de la Chine vis-à-vis de la guerre en Ukraine, c'est un peu une forme de nini, c'est-à-dire ni approbation, ni condamnation. Mais en fait, cette position, elle revient de facto à apporter un soutien implicite à Moscou. La Chine se targue d'être neutre, mais c'est une neutralité pro-russe. En fait, derrière cette neutralité, c'est aussi la Chine qui rejoint la Russie pour accuser l'Occident, pour accuser l'OTAN d'être à l'origine du conflit ukrainien en menaçant la sécurité du territoire russe. Et là, on voit effectivement, on a un Xi Jinping, là, tout juste investi de son troisième mandat présidentiel à la tête de la Chine, un troisième mandat inédit qui en fait le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao. Et on voit ce Xi Jinping qui réserve sa première visite d'État à Vladimir Poutine, à peine plus d'un an après le début du conflit ukrainien. On le voit qui trinque avec le leader russe, inculpé quelques jours plus tôt de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Et inversement, on a un Xi Jinping qui n'a jamais eu au téléphone Zelensky depuis le début du conflit. Il ne l'a jamais appelé, même s'il serait question qu'il y ait un échange téléphonique au cours des prochains jours, en tout cas depuis que Xi Jinping est rentré de Moscou, mais ça n'a jamais été fait. Donc effectivement, la Chine met aussi en avant qu'elle a discuté avec Vladimir Poutine d'un plan de paix, mais on ne sait absolument rien de cette discussion. Donc c'est vraiment là une neutralité pro-russe, et je pense que cette visite a vraiment fini de convaincre ceux qui pensaient que la Chine était côté russe.
Et comment cette visite a-t-elle été médiatisée en Chine d'ailleurs?
Alors, les médias d'État ont alimenté l'image d'une Chine en position de force, d'une puissance respectée. On a vu de longues séquences de Xi Jinping accueilli avec tous les honneurs à l'aéroport ou par des moscovites comme ça agitant des drapeaux sur son chemin. Les médias ont beaucoup insisté sur l'influence diplomatique croissante de la Chine, et également sur le plan de paix proposé par la Chine, et aussi les relations d'amitié entre la Chine et la Russie. Sur le conflit ukrainien, à proprement parler, les médias officiels, en fait, reprennent sans surprise les éléments de langage du pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de guerre, mais on parle de crise. On minore la gravité du conflit, on ne montre peu ou pas les morts. Et globalement, de toute façon, le conflit ukrainien, c'est un conflit qui paraît très loin et qui ne fait pas la une des médias comme c'est le cas en France et en Europe.
Comme le disent nos dirigeants, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. Les meilleures en 400 ans d'histoire des relations russo-chinoises.
À la télévision russe, les experts se félicitent des meilleures relations en 400 ans d'histoire. Ce n'est pas la première fois que la Russie et la Chine mettent en scène leur amitié sans limite ces derniers mois. Pourtant, les relations entre les deux pays ont parfois été très tendues par le passé.
Oui, alors le rapprochement sino-russe, en fait, il a été initié au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Et après, il s'est considérablement accéléré, d'une part avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en Chine fin 2012, mais aussi et surtout avec ce qu'on appelle le pivot vers l'Est de la Russie qui a été entrepris par Vladimir Poutine 2 ans plus tard, en 2014, suite à l'invasion de la Crimée et les sanctions occidentales qui en sont suivies. Mais ce rapprochement, effectivement, vous l'avez dit, Pierrick, il n'avait rien d'évident avant cela, parce que, en fait, pour rester juste dans l'histoire contemporaine, Les relations entre l'URSS, par exemple, et la jeune République populaire de Chine, née en 49, ont évolué, en fait, d'une fraternité comme ça, socialiste, qui avait été incarnée à l'époque de Mao et Staline. Mais enfin, il y avait déjà beaucoup de défiance. Mais enfin, il y avait une fraternité. Et après, ça a carrément viré à la franche hostilité au moment de Khrouchtchev et Brejnev, avec même, on se souvient à l'époque, d'un risque de guerre nucléaire. Et donc après, effectivement, la chute de l'URSS, en 96, Boris Yeltsin et Jiang Zemin ont qualifié les deux pays de partenaires stratégiques. C'est à partir de ce moment-là que les relations entre les deux pays se sont réchauffées.
Sibérie tous les jours, Sibérie dans la cour, j'ai tant rêvé du fleuve Amour.
Sibérie, fleuve Amour de Manu Chao. Frédéric, vous êtes parti en reportage pour Les Échos le long du fleuve Amour, le bien nommé, dans une petite ville au nord-est de la Chine, à la frontière entre ces deux puissances, la ville de Reireu en Chine. En face, il y a la ville russe de Blagoveshchensk, aux confins de l'extrême-orient russe, c'est pas facile à prononcer. Ces deux villes symbolisent, écrivez-vous, le rapprochement entre les deux pays.
En tout cas, la Russie et la Chine ont 3500 kilomètres de frontières communes. Et là-dessus, il y a un seul endroit où deux villes se font face. C'est effectivement Reireu et la surnommée Blago, qui est plus facile à prononcer, dans l'extrême-orient russe. Et entre ces deux villes, le fleuve Amour les sépare. Elles sont distantes de 400 mètres. Quand on est à Reireu, donc côté chinois, on voit le grand drapeau russe flotter au vent de l'autre côté. Et effectivement, Reireu, ce qui est intéressant, c'est que donc, c'était qu'un petit village à la fin des années 80, au début des années 90. Et donc, quand les relations ont repris entre la Chine et la Russie, la ville s'est rapidement développée et il y a une reprise des échanges commerciaux entre les deux pays. Et en fait, plus récemment, puisque c'était l'année dernière, il y a un pont qui a été inauguré entre à quelques kilomètres du centre de ces deux villes, un pont qui a été inauguré et du coup qui est devenu le symbole de l'amitié entre la Chine et la Russie, l'amitié sans limite, comme le disait le texte signé entre Xi Jinping et Vladimir Poutine en février 2021. Puisque c'est le premier pont entre les deux pays et qui est censé dynamiser les échanges commerciaux.
Heihei, qui est devenue une ville de 200 000 habitants. On est loin aujourd'hui du petit village des années 80. Ce que vous écrivez, c'est que d'ailleurs, quand on se balade dans la rue, cette présence finalement russe, elle est très présente jusque dans les enseignes des magasins.
Oui, alors effectivement, on voit l'influence de la Russie, que ça soit avec les poupées comme ça dans les parcs ou l'écriture cyrillique sur les devantures des magasins, sur les plaques de rue, etc. Moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est la torpeur dans laquelle cette ville est plongée, parce qu'effectivement, j'avais beaucoup lu comme quoi cette ville s'est extrêmement développée depuis le début des années 90. Et là, quand je suis arrivé dans une ville extrêmement calme, qui avait tout l'air d'une ville en déclin, avec des routes défoncées, avec effectivement des grands immeubles sur la rive, et donc faisant face à la Russie. Et d'ailleurs, ces grands immeubles vus de Russie avaient tendance à impressionner les Russes, qui voyaient comme ça, en fait, ce développement de la ville chinoise. Et en fait, moi, j'avais l'impression que ça avait tout lieu de cache-misère, parce que les rues derrière étaient quand même largement délabrées et avec beaucoup de magasins fermés. Et ça, en fait, c'est surtout le résultat de 3 années de politique zéro Covid chinoise et d'une fermeture totale des frontières de la Chine pendant 3 ans. Et cette ville frontière de Reireu, comme de nombreuses villes frontières en Chine, ont vécu des confinements ultra stricts récurrents au cours de ces 3 années. Donc, elles ont connu quand même des années extrêmement difficiles. Bon, alors, cet hiver, la Chine a effectivement tourné le dos au zéro Covid, a rouvert ses frontières, mais Reireu reste quand même plongé dans un calme fantomatique. La zone de libre-échange que je suis allé voir, elle est d'un calme incroyable, traversée par des chiens errants. Il y a une petite presqu'île sur le fleuve Amour, où il y a un énorme complexe commercial de 3 étages. Et autrefois, il y avait pas mal de Russes qui venaient faire acheter des fourrures, des vêtements, etc. Et là, il y a personne. Reyreux, c'est aussi une ville qui vit des touristes chinois qui venaient ici. Notamment, donc là, on est vraiment tout au nord du Heilongjiang. Et le Heilongjiang, c'est une province qui est assez industrielle. Et il y avait pas mal de touristes chinois qui venaient se rendre à Reyreux, non seulement pour quitter la pollution des grandes villes du nord de la Chine, et puis un peu pour s'offrir une petite fenêtre sur la Russie. Et là, en fait, bon, avec les 3 années de zéro Covid, ils sont pas venus parce que c'était extrêmement difficile de circuler en Chine et que cette vie de Reyreux a été confinée et allée de confinement sur confinement. Et puis bon, là, pour l'instant, ils sont toujours pas revenus. Il faut savoir que le zéro Covid s'est terminé au mois de décembre. Reyreux, en plein hiver, il peut faire jusqu'à moins 40, moins 50 degrés. Quand j'y suis allé la semaine dernière, ça tournait autour de 0 degré. Donc, on peut espérer que les touristes chinois viennent un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est extrêmement calme.
Reyreux est encore à l'arrêt malgré tout. La ville sera l'une des portes d'entrée de la Chine en direction de la Russie, le pivot vers l'Est voulu par Moscou.
Oui, si les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie effectivement ont augmenté de 30% depuis le début de la guerre en Ukraine, ça représente 190 milliards de dollars. Reyreux ne brille pas par son dynamisme et il mise beaucoup sur ce premier pont pour dynamiser les échanges. Et effectivement, c'est un pont qui est très, très peu utilisé pour l'instant. En fait, quand même, cette région, c'est une région qui a longtemps manqué d'infrastructures. Et du coup, il y a eu des projets de développement au cours des dernières années. Alors, outre le pont réservé au fret qui a été inauguré l'année dernière, par exemple, il y a un projet de téléphérique qui doit relier les deux villes et qui doit s'achever l'année prochaine. Ça serait le premier téléphérique transfrontalier au monde parce qu'en fait, le pont est réservé pour les camions, mais jusqu'à présent, les passagers individuels, ils traverse la frontière soit sur aéroglisseur en ce moment parce que le fleuve est entièrement gelé ou soit par bateau plus classique en été. Donc au-delà de ce téléphérique, il y a aussi un pont ferroviaire transfrontalier à 500 km un peu plus à l'est qui doit entrer en service en août. Et sinon, dans les autres infrastructures, il y a le fameux gazoduc Power of Siberia, le deuxième là, qui doit être long de 2600 km, qui est en projet. C'est un projet sur lequel compte beaucoup Vladimir Poutine, parce que ça permettrait de détourner complètement les flux gaziers russes de l'Europe vers la Chine. Mais là-dessus, on a vu effectivement que Xi Jinping, par exemple, est resté très prudent sur ce projet à Moscou, ce qui montre bien que si la Russie est pressée de trouver des débouchés pour son gaz ailleurs qu'en Occident, elle, la Chine, se décide d'abord en fonction de ses propres intérêts.
Effectivement, la Chine a évité tout engagement formel sur ce pipeline baptisé Force de la Sibérie 2, dont le calendrier reste encore flou. Pékin ne souhaite visiblement pas trop dépendre pour son approvisionnement en gaz de son voisin russe. Les intérêts convergent aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme en 1969, lors d'un conflit frontalier entre les deux pays sur la rivière Oussouri. C'est au sud-est de Reyreux. Ces tensions entre les deux pays se ressentent-elles encore dans les contacts que vous avez eus avec la population sur place, Frédéric ?
Oui, alors quelque chose que j'ai oublié de préciser jusqu'à présent, mais par exemple cette histoire de pont là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, donc c'est présenté symboliquement comme le rapprochement de la Chine et la Russie, mais en fait c'est un projet qui a eu énormément de mal à accoucher. Et ça fait 30 ans que c'est en négociation entre la Chine et la Russie. Et une des raisons pour lesquelles ça a pris beaucoup de temps, c'est qu'il y a quand même une méfiance de part et d'autre de la frontière. Et notamment, les Russes avaient beaucoup peur qu'avec ce projet de pont, ça accélère un peu l'arrivée des Chinois en Russie. Historiquement, côté russe, il y a une peur de cette sinisation de cet extrême-orient russe où finalement il y a très peu d'habitants. Alors c'est une région effectivement qui est intéressante car le bassin donc autour du fleuve Amour, ça a été un lieu de conflit au cours de l'histoire entre les Cosaques et la Russie impériale puis la Chine. Et ici, ce qui est intéressant aussi dans le contexte ukrainien, si je puis dire, c'est que les Chinois ont connu ici l'avancée des troupes russes et qu'en 1858, il y a eu un traité qu'ils considèrent comme inégal qui a fixé la frontière sino-russe sur le fleuve Amour et en fait qui avait contraint à ce moment-là l'Empire Qing à céder du territoire au profit des Russes. Et d'ailleurs, il y a un musée en fait d'histoire dans le coin qui raconte, qui revient sur ces épisodes, qui revient aussi sur un massacre qui a eu lieu en 1900 où finalement les Russes ont décidé, du coup, une fois que la frontière était fixée sur le fleuve Amour, ont décidé de se débarrasser des Chinois qui étaient de leur côté du fleuve. Et il y a eu un massacre comme ça de 5000 Chinois qui ont été poussés vers le fleuve. Et ce musée, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il est interdit aux Russes. Et il y a une méfiance, effectivement. À la fois, les Russes avaient beaucoup tendance à venir avant le zéro Covid, mais quand on en discute un peu avec la population chinoise sur place, on se rend compte que les Russes n'ont pas forcément très bonne réputation. Mais après, quand il s'agit d'évoquer les relations actuelles, quand il s'agit d'évoquer voilà le rapprochement entre les deux dirigeants, les habitants n'ont aucune hésitation. Hein. Pour eux, les Russes sont nos amis, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et de toute façon, l'opinion exprimée publiquement comme ça sur la Russie ou sur la guerre en Ukraine, on se rend bien compte qu'elle ne s'éloigne guère de la position officielle de Pékin et de la propagande qui est livrée par les médias. Ce qui est assez intéressant, c'est que le point de vue des habitants, il est aussi spontanément motivé finalement par leur opinion sur une autre superpuissance et c'est le grand ennemi américain. C'est très important d'avoir ça en tête parce que les médias officiels chinois aussi, quand ils relatent les relations sino-russes, c'est toujours en opposition par rapport au grand ennemi américain. Voilà, c'est aussi dans ce contexte de rivalité sino-américaine qu'il faut comprendre la position chinoise sur l'Ukraine. Ce que cherche Pékin dans cette guerre en Ukraine, c'est bien plus de s'opposer à Washington, finalement, que de défendre Moscou. Et là, on voit bien que l'amitié sino-russe, c'est vraiment une amitié de circonstance, qui est un peu, c'est un mariage de raison qui est vraiment motivé par l'opposition à l'Occident. Et finalement, on retrouve un vrai climat de guerre froide avec deux blocs qui se font face sur des sujets finalement de plus en plus nombreux.
Vous avez pu rencontrer notamment une certaine Madame Wang, qui est persuadée que ce sont les Américains qui ont amené le Covid-19 en Chine. Et elle vous a dit aussi quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Les Russes boivent beaucoup et ne sont pas très travailleurs.
Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avant de me répondre, en fait, ils étaient bien évidemment prudents. Et en général, ils me demandaient soit si j'étais russe ou si j'étais américain. Je leur disais que j'étais français et déjà, ça les soulageait un peu pour pouvoir s'exprimer.
Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos en Chine. Vous pouvez retrouver ces décryptages et analyses dans les pages du journal et sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.